parti social, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de service.
Et si toutes ces heures enfermées dans notre chambre comme Julia, le son maximum, l'oreille collée au haut-parleur, n'était pas vaine? Et si le rock caché derrière le riff agressif de ses guitares l'était-ce des plus grands penseurs, penseurs politiques, et même, allez, n'ayons pas peur des mots, de la philosophie? Eh bien, de politique et de philosophie, on va en parler avec deux livres qui viennent de sortir. Rock et politique aux éditions, autour du livre écrit par Julien Demetz. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Rock and Philo aux éditions Bréal, signé Francis Métivier. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, Julien, on peut relire toute la politique et notamment la politique américaine au travers du rock. Pour vous, Francis, Elvis Presley et Spinoza sont deux mots qui vont très bien ensemble, comme le dirait la chanson. On verra tout ça en détail. Peut-être Julien Demetz, pour commencer, vous êtes un passionné de musique, vous avez été journaliste notamment pour le site Even. À ses débuts, le rock était qualifié de musique de décérébré pour toute une génération. Est-ce que c'était inné l'idée qu'il fallait y associer un message, et notamment un message politique?
Un message politique dans le rock, c'est pas forcément quelque chose de naturel, parce que justement, le rock, c'est une musique de défoulement, une musique d'insouciance, une musique pour la jeunesse qui est là pour lutter contre l'ennui. Et forcément, a priori, ça s'accorde assez mal avec la politique et quelque chose d'assez cérébral. Et en effet, on a du mal à imaginer Elvis qui chante Hound Dog ou qui chante Jealous Rock, tout d'un coup se fendre d'un long discours politique. Donc il y a eu beaucoup de rockers engagés, évidemment, mais disons que le rock n'a pas de couleur politique naturellement. On peut faire du rock, et d'ailleurs la plupart des groupes de rock se moquent complètement de la politique en fait. Il y en a très peu des groupes engagés en fin de compte sur la totalité de la scène rock.
Finalement, on met l'attention sur eux, mais ils ne représentent pas la majorité. On va l'écouter, notre Elvis d'ailleurs. Sur cette chanson, on a envie de danser. Il y a un message derrière pourtant, non?
Il peut y avoir un message, mais alors dans le rock, souvent le message, est-ce qu'on y fait vraiment attention au premier abord? La première émotion dans le rock, c'est le cas pour beaucoup de musiques, mais encore plus dans le rock parce que c'est une musique amplifiée, qu'on a d'abord identifiée par sa violence, par le bruit qu'elle dégageait.
Mais ensuite, pour les positions, Elvis, par exemple, il est allé voir lui-même Nixon.
Oui, alors ça, c'est plus tard, c'est en pleine guerre du Vietnam, donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est plus les années 50. Elvis, le plus grand rôle politique qu'il ait joué, il le joue de manière non pas inconsciente, mais il n'y a pas un calcul politique derrière. Il participe dans les années 50 à l'émancipation des mœurs, il joue une musique de noir, ce qui, à une époque où la ségrégation a encore lieu, joue un rôle, mais c'est pas quelque chose qui est lisible dans ses chansons. Ça a eu cet effet-là, et après il rencontre Nixon en effet dans les années 60, parce qu'à ce moment-là il était devenu réactionnaire, il était pour le Vietnam, clairement.
Ouais. Alors si pas message politique, en tout cas message philosophique. Francis Métivier, vous êtes professeur de philosophie, également passionné de rock, et vous avez cherché à établir les liens entre les textes de ces chansons de rock et les grandes thèses philosophiques. Elvis Presley, par exemple, dans cette chanson là qu'on vient d'entendre, pour vous, on peut y lire du Spinoza?
Oui, parce
que m'expliquer comment.
La chanson d'Elvis, c'est une chanson sur la liberté, plus précisément sur la sensation illusoire de la liberté. On est dans une prison, il y a un concert dans une prison, on s'agite, on se défoule, hein, et le problème, c'est qu'on est en prison, et ça, on l'oublie, et c'est ce que dit Spinoza, c'est-à-dire que lui, il y a une différence entre la sensation de liberté et la réalité de la liberté. On n'est pas libre, en fait.
La prison d'Elvis Presley ne serait-elle pas à la fois le symbole du monde où nous nous agitons et le lieu des syndromes qui nous agitent, écrivez-vous? Il serait heureux d'apprendre ça, le King, dans sa tombe, non?
Je sais pas. Mais pour revenir sur la question politique, je pense qu'il faut distinguer la politique et le politique. La politique, l'homme politique en l'occurrence, moi j'ai toujours trouvé un petit peu ridicule le fait que certains rockers s'associent à des hommes politiques. C'est très artificiel, c'est très occasionnel, c'est très électoral. Par contre, le politique, c'est-à-dire la dimension politique de l'homme dans son existence, ça c'est un vrai thème philosophique qu'on retrouve dans des groupes comme Téléphone, comme Neil Young, etc.
Ouais. La politique, le politique, on parlait tout à l'heure des thèmes, il y en a un paquet, si on fait toute la liste des thèmes relayés par les rockers, la guerre au Vietnam, le racisme, l'apartheid, le capitalisme, ou encore les troubles en Irlande du Nord, avec cette chanson particulièrement emblématique du groupe U2. Julien Demetz, ça, ce sont vraiment des chansons qui sont devenues, on peut dire, des porte-drapeaux de certaines causes.
Oui, c'est typiquement des protest songs qui sont devenus symboliques de leur époque. Il y a eu pas mal de chansons, d'ailleurs, On mesure peut-être pas en France parce que c'était très britannique évidemment, mais il y a eu un tas de chansons dans les années 80 sur les troubles en Irlande du Nord. Celle-ci est sans doute la plus symbolique. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une chanson du même titre de John Lennon quelques années auparavant sur le même sujet, mais finalement celle-ci est restée plus célèbre.
Est-ce qu'on ne risque pas de perdre une partie de son public lorsque l'on s'engage à ce point-là pour une cause qui divise la population ?
Il faut savoir le faire, et particulièrement dans le rock, de façon presque schizophrène. Ça veut dire que si vous faites de la politique, vous risquez de déstabiliser un public qui, dans le rock, n'est pas forcément demandeur de contenu politique, puisque c'est en général un auditoire assez jeune, un auditoire qui veut avant tout du rock, qui veut de la musique. Donc, il faut savoir faire de la politique, mais en restant rocker, en sachant soigner la forme, en faisant toujours de bonnes chansons, parce que dans le rock, on écoute d'abord les riffs de guitare, on écoute d'abord les mélodies. Avant de
c'est un univers finalement. Hein.
Voilà, il faut savoir rester en fait, faire de la politique, mais sans déstabiliser un public en restant dans les clous en quelque sorte rock. Dans
Francis Métivier.
Mais toute la subtilité des chansons contestataires entre guillemets politiques, c'est qu'elles s'accompagnent toujours d'une réflexion sur la morale, sur la conscience de soi. On ne fait pas que nier finalement la société. On exprime aussi ce que l'on éprouve intérieurement en quelque sorte. Et c'est pour ça que effectivement, pour moi, c'est pas un risque. Pour le rocker de prendre position politiquement parce qu'il exprime aussi son intimité.
Donc tout le monde s'identifie en réalité.
La plupart des chansons rock sont écrites sous la forme non pas d'un manifeste avec un message hurlé, mais souvent à travers les yeux d'un personnage, souvent sur l'angle.
C'est beaucoup quand même le moi.
Exactement.
On a quand même des chanteurs particulièrement narcissiques. Nirvana en a été l'exemple même. Ah, ça bouge ce matin sur Europe 1. Smells Like Teen Spirit, Francis Métivier, une explication que vous donnez vous dans votre ouvrage. Cette chanson exprime le sentiment de mésestime de soi qui provient d'une haine de soi. Elle traite de l'auto-dévalorisation et de ses effets. Faut dire qu'il s'est suicidé, Kurt Cobain, hein, donc l'effet, on l'a vu. Hein.
Oui, mais en même temps, c'est très ambigu parce que c'est une chanson sur la mésestime de soi, mais par laquelle on s'érige en tant que star. C'est très ambigu, on s'aime pas et en même temps, on veut se faire aimer. Et c'est en ce sens que dans le livre Rock'n'Philo, je le mets en relation avec la phrase de Pascal, le moi est haïssable.
Ouais. Mais en tout cas, vous arrivez à faire, on va dire parfois c'est un petit tiré par les cheveux quand même dans votre ouvrage, quand vous liez certains rockers avec certains philosophes, on se dit, pour un prof de philosophie, vous avez fait quoi? Vous allez chercher à joindre vos deux passions personnelles?
Oui, c'est ça. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Quand on lit les titres, effectivement, ça peut paraître un peu fun. Quand on voit Elvis et Spinoza ensemble, après, faut lire, il y a des démonstrations qui montrent que je procède.
Et Pascal et Nirvana quand même.
Non, mais je procède de façon classique. C'est-à-dire qu'en philosophie, on illustre les idées par des exemples. Alors souvent, les exemples sont empruntés à la peinture, à la société. Là, j'emprunte les exemples au rock, tout simplement.
Chez nous, en France, est-ce que nos rockers sont à la traîne aujourd'hui? Est-ce qu'on a la même vision de ce que doit être le rock en France et aux États-Unis?
Pendant des décennies, il n'y a tout simplement, selon moi, pas eu de rock en France. On avait du rock en français, qui était une imitation du rock anglo-saxon. Et en gros, je considère moi que c'est vraiment à partir de Noir Désir qu'on a eu des groupes de rock français qui à la fois pouvaient revendiquer l'influence anglo-saxonne sans parodier les anglo-saxons.
Alors petit test par exemple, ça c'est rock ou pas rock?
Téléphone, pour moi, c'est un peu l'archétype de ce rock en français. Je trouve que les chansons tiennent très bien la route, excusez-moi. Mais les paroles sont vraiment très faibles. Et comme en France, on aime beaucoup les paroles, et ben je trouve que c'est en France, on a plus de mal à écouter autant un She Loves You en Beatles, ça passe. En téléphone, les paroles sont parfois assez faibles et on a du mal.
Pour parler vulgairement, c'est que de la gueule.
Au pays de Brassens, on a du mal, disons, à marier les deux.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que téléphone, au niveau des textes, ça a un sens. Alors peut-être une écriture assez rapide, assez laconique, je sais pas. Mais si on prend l'exemple d'Hygiaphone, pour moi, c'est une vraie chanson sur la difficulté des rapports sociaux et des éléments techniques qui viennent faire interférence entre toi et
c'est
moi.
C'est drôle parce qu'en fait, vous avez deux analyses sur le fond, sur la forme. Tiens, ça, par exemple, c'est rock ou c'est pas rock?
Ne m'appelez plus jamais.
Là, il n'y a pas de débat.
Excusez-moi, mais il y a un message politique dans cette chanson.
Ni dans la forme, ni dans le fond, ni dans le style.
Oui.
Mais c'est pas une critique, mais c'est pas rock.
Et pourquoi ce serait pas rock, ça, par exemple?
Parce qu'il y a des violons.
Oui.
Mais des violons. Non,
une guitare électrique pour ce soir.
Je précise, il y a des
le
violons.
C'est quand même beaucoup l'amplification, la guitare.
Il y a des violons synthés.
C'est le truc.
Bon, alors on va se quitter avec un groupe qui fait l'unanimité, les Beatles. Vous êtes d'accord là-dessus? Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vais rappeler vos deux ouvrages, Rock et Politique aux éditions Autour du Livre, écrit par Julien Demetz, et Rock and Philo aux éditions Bréal, signé Francis Métivier. Merci à tous les deux.
Merci.